la place du corps dans notre personnalité. C'est quelque chose de substantiel, mais en même temps de secondaire. C'est très curieux comme situation. C'est là où on voit que il y a quelque chose. La métaphysique, elle est faite pour l'esprit. L'être. Et le corps, il n'existe que par l'âme spirituelle. Donc notre corps est second, toujours second. Il n'y a pas de causalité matérielle de l'être. Il n'y a pas de causalité propre de l'efficience pour l'être. Les deux seules causes qui existent au point de vue de l'être, c'est la forme et la fin. Il faut toujours se rappeler ça. Alors, quand on regarde non plus les principes d'être, mais la manière d'exister, et la personne, c'est une manière d'exister, alors la matière peut être substantielle. Ce serait contradictoire de considérer la matière comme essentielle au point de vue de l'être, parce que l'être est matériel. Tous les positivistes, et ils sont nombreux aujourd'hui, tous nos positivistes, considèrent la matière du point de vue de l'être. Pour eux, l'être, c'est la matière. Alors que l'être ne touche la matière qu'une façon seconde, jamais première. C'est pour ça que la causalité de l'âme est directement par Dieu. Il n'y a que Dieu qui cause l'être. Il n'y a que Dieu qui peut créer l'être. Alors, il y a toute une série de questions, je réponds autant que possible. La volonté est une faculté du sujet, donc elle est plus proche de ce que je suis comme personne que l'intelligence. Elle est plus proche de ce que je suis comme personne. La personne est une modalité de... C'est bien tout à fait ce que je viens de vous dire. Au point de vue de la personne, la matière est essentielle. Au point de vue métaphysique, la matière n'est pas une cause propre. Et ça, c'est très important. Ça montre bien que l'étude de la personne n'est pas une étude des principes de l'être. Mais c'est la manière dont l'être se trouve existant. Alors, c'est la même question ici. La volonté est une faculté du sujet existant. Donc, elle est plus proche de ce que je suis comme personne que l'intelligence. C'est sûr. Ma volonté joue un rôle plus immédiat dans ma personnalité que mon intelligence. Mais l'intelligence joue un rôle plus essentiel. Comment se situe le corps par rapport à la volonté et l'intelligence ? N'est-il pas plus proche dans l'exercice de la faculté appétitive spirituelle ? Comment se situe le corps par rapport à la volonté ? Le corps se situe comme justement un élément substantielle, mais accidentelle. Ma finalité n'est pas dans mon corps. Ma finalité est du côté de l'esprit, dans mon âme. Tandis que le corps est justement du côté de ma manière d'exister, le corps est essentiel. C'est un vieux compagnon essentiel à ma vie, mon corps, qu'on doit aimer. C'est pour ça que ne pas aimer son corps, c'est très grave. On doit l'aimer, avec la volonté. La volonté doit aimer notre corps. Il doit l'aimer comme quelque chose de substantiel. Mais la matière n'est pas un principe essentiel de l'être. Mais mon corps est quelque chose de très important pour mon devenir. Tout mon devenir dépend du corps. L'ange n'a pas beaucoup de sens du devenir, tandis que j'ai un sens très aigu du devenir. J'ai un sens très immédiat du devenir, plus que de l'être. Et c'est pour ça que si facilement le devenir fait un obstacle à la vision de l'être. Les historiens veulent à tout prix que l'histoire soit une sagesse. Et l'histoire n'est pas une sagesse. L'être seul me permet de toucher la finalité. Vous voyez, le très grand défaut de Hegel, c'est de faire du devenir une sagesse. Et Hegel emporte avec lui tout le monde. Et c'est le grand défaut de notre vie, de notre existence actuelle. Combien de philosophes, qui ne sont pas de vrais philosophes, mais qui sont des historiens, combien d'historiens veulent que leur histoire soit sagesse? Alors on dira, elle est une sagesse pratique. Oui, l'histoire est très importante pour la prudence. Mais la prudence n'est pas une sagesse simplitudinaire. C'est une sagesse humaine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sagesse, tout court. Mais combien d'historiens veulent que leur histoire soit sagesse ? Alors, c'est terrible quand on fait de l'histoire de la sagesse. C'est qu'il ne peut plus y avoir de contemplation. Il n'y a plus que la dévotion. C'est la grande tentation de notre monde d'aujourd'hui, ça. Faire de l'histoire une sagesse. Bon, l'histoire est très utile pour la prudence. Cette petite sagesse humaine, mais pas pour la sagesse métaphysique. Dieu n'est jamais atteint par l'histoire. L'histoire ne me fait pas toucher Dieu. Je ne peux pas toucher Dieu par l'histoire. Je suis dans la relativité. Alors, comment se situe le corps par rapport à la volonté et l'intelligence ? Vous voyez, le corps conditionne ma vie humaine, conditionne essentiellement ma vie humaine, mais la conditionne, mais la finalise pas. Donc, le corps ne finalise pas ma volonté. Le corps n'est pas ma fin. Et il est pour mon intelligence il n'est pas l'objet propre de mon intelligence. C'est mon intelligence avec mon âme qui me permet de dire le cogito. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon corps. Donc mon corps n'est pas l'objet propre de l'intelligence. Alors que chez tous les positivistes, le corps est l'objet propre de leur intelligence. Voyez, aujourd'hui, le positivisme dans la science biologique, parce que c'est là où on voit le mieux. Les biologistes sont très positivistes aujourd'hui. Et pour eux, c'est le corps. Or, ils oublient une seule chose, c'est qu'ils étudient le cadavre et pas le corps humain. C'est ça qui est terrible. Donc, tous les positivistes sont des hommes du cadavre. Et qu'ils croient connaître le corps humain en étudiant le cadavre. Ils étudient très bien le cadavre, l'analyse du cadavre, mais le cadavre n'est plus un corps humain. Il est un cadavre. Je ne suis pas avec un cadavre, je ne porte pas mon cadavre. Mon corps est animé par mon âme. Je me souviens, c'était un Espagnol, un grand d'Espagne, était de la famille de Saint-Dominique. Il faisait des études à Genève de biologie. Et il était venu à Fribourg me dire bonjour. Et il est venu assister à un séminaire que je faisais sur Aristote, sur le De Anima d'Aristote. Alors, quand Aristote dit qu'étudier le cadavre, c'est étudier le corps humain d'une façon équivoque. Alors, j'ai insisté là-dessus. Donc, vous croyez étudier le corps humain en disant le cadavre, mais vous étudiez le cadavre d'un mort. Ce n'est plus un corps humain. L'essentiel est disparu. Donc tout ce que vous étudiez sur le cadavre, ce n'est pas humain. Alors à la fin du séminaire, il était blanc. Il m'a dit, oh, je croyais vraiment que j'étudiais le corps humain. Ce que dit Aristote. Alors, ils sont tous matérialistes. Alors, je dis, mais oui, si vous considérez le cadavre comme un corps humain, c'est matérialiste. Vous oubliez l'âme. Parce que l'âme, on ne la rencontre pas dans le cadavre. Et vous ne la rencontrerez pas non plus dans l'étude de l'homme, du vivant. Mais l'étude du vivant, vous verrez qu'il y a quelque chose d'autre que le cadavre. Alors, voyez, comment se situe le corps par rapport à la volonté? Il conditionne ma volonté. Il conditionne mon intelligence. Mais il n'est pas l'objet propre de la volonté, ni l'objet propre de l'intelligence. N'est-il pas plus proche dans l'exercice de la faculté appétitive que spéculative? Alors, le conditionnement du corps pour la vie volontaire et pour la vie de l'intelligence n'est pas le même. Ah. Donc c'est vraiment ça qui est posé. N'est-il pas plus proche dans l'exercice de la faculté appétitive spirituel. Parce que dans le conditionnement de ma vie appétitive, le corps est essentiel. Dans le conditionnement de ma vie intellectuelle, le corps est ce que j'abandonne. C'est là la grosse différence. Mon intelligence est capable de dépasser le corps pour parler du cadavre. Quand je parle d'un cadavre, je dis ce corps a été humain et je le respecte à cause de ça. Mais il n'est plus encore humain, il est cadavre. La différence d'un corps humain et d'un cadavre, c'est que le corps humain est animé d'une âme. Et donc, le corps humain étant animé d'une âme, est vivant par l'âme. Alors que le corps cadavérique n'est plus vivant, il est mort. Mais il reste un corps humain, un corps qui a été habité par l'âme. Donc, du fait qu'il a été habité par l'âme, il a une certaine noblesse. Et on n'a plus beaucoup le sens de cette noblesse, hélas. Un cadavre, on doit le respecter. Parce que c'est un cadavre humain. Et on doit le respecter. Et dans quelle mesure on le respecte quand on fait l'anatomie du corps humain, l'anatomie du cadavre, qu'on le coupe en petits morceaux. Je veux bien qu'après ma mort, on le coupe en petits morceaux, mais le couper en petits morceaux, ce n'est pas respecter le corps humain. Et alors l'Église, c'est ça qui est très curieux, l'Église pendant un certain temps a interdit l'analyse du corps. Et puis, elle a dit oui. Mais on se demande... Quand on voit jusqu'où aujourd'hui on va dans les recherches biologiques, on se demande s'il n'y avait pas une très grande sagesse. C'est très mystérieux ça. L'art désire dépasser la mort. Et c'est vrai, hein. L'art veut dépasser la mort. Et on a beaucoup de peine à respecter le cadavre. On dit, mais le cadavre, c'est rien. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Je peux donner mon cadavre à la science. Ah. Mais c'est des problèmes très délicats, ça. Très délicats. Mais qui restent des problèmes. Je crois que c'est trop facile de dire le corps humain après la mort, on en fait ce qu'on veut. On peut le brûler, incinération. Et avoir un petit bout de cendre, corps humain. Et on garde ça dans un vase dans son salon. Mais c'est très mystérieux, tous les problèmes autour du corps humain. Et tous les problèmes autour du corps humain sont des problèmes qui demeurent. Mais on doit doit respecter le corps humain, ça c'est sûr. On doit respecter le corps humain. Il a été habité par l'âme. Alors jusqu'où doit aller ce respect? Je vous laisse devant la question. La dimension sexuelle est-elle une dimension propre à la nature humaine et de la personne? Comment le philosophe regarde-t-il le vœu de chasteté? Chez un religieux, est-ce pour lui la négation de sa nature humaine? C'est très juste. La dimension sexuelle est-elle une dimension propre à la nature humaine? Oui. Propre à la personne humaine? Oui. C'est sûr. Il y a, quand on réfléchit, pourquoi Dieu a-t-il créé la nature humaine comme ça? Pourquoi Dieu a-t-il voulu le corps? Il a voulu le corps pour la procréation. Les anges ne peuvent pas engendrer un ange. Et donc, si Dieu a poussé la création jusque-là, c'est pour pouvoir communiquer à la créature le pouvoir de coopérer avec lui à la création. Je ne peux pas coopérer directement à la création. On ne peut pas servir d'instrument quand on crée. Mais on peut coopérer indirectement à la création par le corps. Et là, il y a un très gros problème et très important. C'est que la sexualité, c'est la possibilité de coopérer avec Dieu pour la création de l'âme. Puisque par la sexualité, il y a possibilité de former un corps humain. Vous voyez? Et ça devient le gros problème maintenant, puisqu'on cherche par tous les moyens de pouvoir procréer indépendamment de l'union du corps et de l'homme et de la femme, comme Dieu l'a voulu. Et on touche actuellement à quelque chose de tout à fait fondamental. Et ça nous met peut-être en face du terme de la vie humaine sur Terre. L'homme veut être comme Dieu. Quant à la procréation, il veut modifier la manière de toucher la fécondité. Alors, la fécondité, on la ramène à l'efficience. Le gros problème philosophique, c'est de voir la différence entre efficience et fécondité. Et ce n'est pas du tout le même problème. La fécondité, c'est transmettre la vie, et l'efficience, c'est réaliser quelque chose artistiquement. Or, on veut actuellement que l'efficience remplace la fécondité. Donc, on est en train de vouloir dominer, l'homme veut dominer sur la fécondité. Et faire que la fécondité soit remise entre ses mains. Et donc, un orgueil humain fou. La fécondité est du côté de la finalité. Et l'efficience est du côté de la cause efficience. Et ça, il faut réfléchir longuement là-dessus. C'est un des très gros problèmes d'aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre que la sexualité est liée à la procréation. C'est donner à l'homme et à la femme le pouvoir de coopérer avec la procréation, la génération. C'est donc quelque chose qui est très important, puisque coopérer à la coopérer à la création, c'est quand même une grandeur humaine très grande. C'est pas être comme Dieu, mais c'est être avec Dieu dans une opération qui est propre à Dieu. Et c'est être avec Dieu pour pouvoir donner la vie. Donc, c'est l'activité corporelle la plus grande. Ça touche à la finalité du corps. La grandeur du corps humain, c'est la sexualité, en vue de la procréation. Là, il n'y a rien de plus grand au point de vue corporel. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu a voulu la création du corps, la création de l'homme et de la femme. Parce que les anges n'ont pas ce pouvoir-là. Et donc, c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme qui est unique. Alors, si je ne considère pas le point de vue de l'âme spirituelle, de l'âme capable d'aimer, capable de contempler. Si je suis dans une perspective positiviste, l'âme n'existe pas. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand j'enseignais à Fribourg, le professeur de philosophie de Lausanne, que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup, m'a dit « Tous mes étudiants ne croient plus en l'âme. Tous mes étudiants pensent que l'âme n'existe plus. » Il en était désolé, lui. Et il me disait « Mais comment peut-on leur faire comprendre que l'âme existe ?» Alors, il me disait, si il n'y avait pas des lois qui m'interdisaient de vous inviter à donner un cours sur l'âme, je vous demanderais tout de suite de faire un cours sur l'âme à l'université. Mais je ne peux pas le faire. Alors, à ce moment-là, on a cherché comment on pouvait dévier la loi. Et on a trouvé un moyen très simple, c'est lui qui a trouvé ça du reste. Je n'ai qu'à les inviter chez moi. Si vous voulez, on fait un séminaire chez moi. Non pas à l'université, mais chez moi. J'invite tous mes étudiants sur la distinction de l'âme et du corps. chez moi. Alors il a invité tous ses étudiants chez lui, le soir. On a commencé à 8 heures, on a terminé à minuit. C'est un séminaire très intéressant. Tous ses étudiants de philosophie. Et lui était là avec moi. Précise, comprendre que distinguer l'âme et le corps est une distinction philosophique et non pas théologique. Le philosophe peut distinguer l'âme et le corps. Et que l'affirmation de l'âme est une affirmation philosophique. C'est très difficile à prouver ça, à montrer ça. J'avais devant moi la fille d'un pasteur. Donc elle était particulièrement enfoncée dans son protestantisme. Alors, je lui ai demandé, elle était juste en face de moi, je lui ai demandé, y a-t-il une différence pour vous entre dormir et travailler? Alors elle a blémi. Elle n'a pas répondu. Parce qu'évidemment, si elle avait répondu, elle voyait quand même une petite différence entre dormir et travailler. Dormir et aimer. Est-ce qu'elle n'y voyait une différence? Elle n'a pas osé répondre. Elle avait peur du traquenard. Hein. Alors à minuit, est arrivée une tasse de café, une tasse de thé, parce qu'on avait bien travaillé, hein. Et on n'avait pas dormi. À minuit, t'as révélé. Alors, chacun s'est précipité sur sa tasse. Elle dit, voyez, y a-t-il une différence entre faire de la philosophie et boire une tasse de thé? Je m'adressais toujours à elle. Elle n'a pas osé répondre. Alors j'ai dit, évidemment, si vous n'acceptez pas l'âme, je comprends que vous ne faisiez pas de différence entre dormir et boire une tasse de thé, travailler et dormir. Mais alors, vos cours de philosophie, ça doit être assez endormant. Alors, par des exemples, ils ont été obligés de reconnaître même, nous avons des activités diverses. Des activités diverses. Ça prouve qu'on a un corps. Et ça prouve peut-être qu'il y a quelque chose en plus que le corps. Parce que quand vous demandez à la vache si elle a des activités diverses comme vous, il y a quand même une petite différence. Alors, par l'expérience, arriver à montrer que l'âme existe, qu'il y a quelque chose de différent que le corps. Je crois que ce sera la grande distinction à laquelle on devra tous savoir répondre. Mais, au fond, on revient à des positions pré-socratiques, à des positions antérieures à Platon, à distinguer l'âme du corps. Et je crois que c'est ce qui nous attend demain. Alors, comment le philosophe regarde-t-il le vœu de chasteté? Alors, dans l'homme, il y a la possibilité de la procréation et la possibilité de la procréation peut être dépassée par la contemplation. Je ne peux faire le vœu de chasteté que en raison de la contemplation. Je n'ai pas le droit de faire le vœu de chasteté en raison de l'art. Pour être plus libre, pour me donner la possibilité d'avoir une vie différente. Seule la finalité permet le dépassement de la procréation. Alors, l'autre problème très délicat, c'est de se servir des organes génitaux uniquement en vue de la procréation. Alors qu'on voudrait s'en servir pour la jouissance, par toute espèce de moyen, contourner le point de vue de la fécondité pour ne regarder que la jouissance. Vous voyez, le vieux problème d'Aristote, l'amitié peut tellement facilement devenir une amitié de jouissance ou une amitié utilitaire, eh bien, je crois que c'est le grand problème de la chasteté, ça. Quand on a compris que l'amour qui dépassait le point de vue de la sexualité pouvait se développer d'une façon plus parfaite dans un amour chaste, au moins par la pensée, on sait que c'est possible. On sait que peut-être ce sera très difficile, qu'il y aura des luttes, mais on sait que c'est une chose possible. On peut faire le sacrifice d'un bien inférieur pour un bien supérieur. Mais si on ne voit pas ce bien supérieur, c'est impossible de dépasser la chasteté. C'est impossible de dépasser le point de vue de la sexualité. La sexualité est tellement enracinée en nous, elle est substantielle, hein. Elle est l'opération corporelle la plus proche de la substance. Donc c'est l'opération qui n'est pas seulement accidentelle comme la vision. Non, c'est plus. Ça touche à la substance de notre corps. Et par le fait même, il faut une opération substantielle pour la dépasser. Ou l'amitié, ou la contemplation. C'est les deux seules opérations qui peuvent la dépasser. Et l'amitié a toujours la difficulté de pouvoir glisser dans une espèce d'homosexualité. Pour contourner le point de vue de la création. Et pouvoir avoir la jouissance, la joie de la sexualité qui est liée à notre substance, donc un don substantiel. Et c'est pour ça que la sexualité est une chose tellement enracinée en nous, tellement forte. Elle ne peut être dépassée que par une contemplation substantielle. C'est très net et c'est très utile de bien comprendre cela aujourd'hui. Parce que de moins en moins, le point de vue de la chasteté sera compris. Parce que de plus en plus, on voit que le corps est tout. Si le corps était tout, la sexualité serait le sommet de l'utilisation de notre corps en vue de la procréation. Et donc, la chasteté serait dérisoire. Si on comprend qu'il y a une finalité propre à l'homme, qui est le point de vue de la contemplation, on comprend alors que cette contemplation met les sommets de notre âme, point de vue intelligence et amour, au-dessus de tout. Mais la contemplation au-dessus de tout. Alors, à ce moment-là, la chasteté est possible. La chasteté ne peut exister que pour la chasteté ne peut exister que pour la contemplation. Seule la contemplation permet. Prétendre que l'activité artistique, l'activité de charité peut remplacer la contemplation, non. Seule une activité substantielle, la contemplation, peut légitimer ce dépassement, permettre à notre vie humaine uniquement de se développer d'une façon divine, d'une façon supérieure. Alors, il y a une question qui reste, la coopération de la recherche de la vérité avec l'amour. On en reparlera la fois prochaine.